renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental pour vous divertir, mais surtout, nous l'espérons du fond du cœur, vous informer. On vous parle d'une tonne de choses en environnement, notamment le Canada est le plus pire pays du monde en environnement, le saviez-vous? Oh, surprise, l'OMC n'est pas la meilleure place pour défendre les intérêts environnementaux. Ouh, grosse nouvelle! Une grosse nouvelle aussi, saviez-vous? L'asthme et les autoroutes, c'est lié. Qui l'eût cru, reçu cru? C'est la question que je vous pose. Pour un Québec lucide, certains vous proposent des voies de droite. Nous, on vous propose des voies vertes. On vous en reparle. Bien entendu, on va terminer cette belle revue de l'actualité environnementale par les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour faire l'animation de cette belle émission. À ma compagnie, comme d'habitude, l'équipe magique. Et j'ai nommé cette semaine, oh, un peu de feedback dans mon micro. J'aime ça quand tu mets de l'effet. Étienne Côté-Paluc à la mise en onde, le retour du guerrier que l'on aime. Étienne, yeah, bienvenue. Les deux Nicolas encore cette semaine, Nicolas Milo et Nicolas Mainville. Bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien.
Toi.
Très bien, merci. En feu, qu'on dirait même certains,
en
mais bon, c'est une autre histoire. Et la rookie, la fille avec nous cette semaine, Mélanie Roussel, bonjour.
Bonjour encore.
Encore. Alors donc, grosse semaine en environnement, oui et non, Louis-Jules Francoeur est en vacances.
Ça paraît, hein?
Oui, ça enlève un peu de profondeur dans le traitement des nouvelles, en tout cas dans ce qui est de la presse québécoise. Juste pour finir de présenter Delirium Environnemental, bien entendu, c'est le magazine d'information en environnement, le magazine à la radio, bien sûr. C'est aussi un site Internet que vous pouvez trouver au www.radiodelirium.net, à partir duquel vous pouvez vous inscrire à une cyberlettre pour retrouver toutes les nouvelles desquelles on vous parle ou pour écouter les anciennes émissions ou celles qui ont cours présentement. On a voulu commencer l'émission en faisant un petit coup de gueule. Écoutez, c'est dans notre nature, nous, les coups de gueule, on aime bien ça. Vous savez, un document qui a été publié par ces bons du Québec... Je ne mettrai pas de qualificatif ici. Donc, M. Bouchard et compagnie qui sortent un document qui s'appelle « Pour un Québec lucide ». Ça a suscité l'ire de plusieurs. Pour ceux qui connaissent pas ce mot-là, je vous invite à chercher dans le dictionnaire, c'est toujours instructif. Donc, ça a soulevé l'ire de plusieurs. Et puis, notamment, Nicolas Milo, toi, de coup de gueule terrible. Vraiment, ça t'a dérangé, ce papier-là. Et pourquoi donc?
Non, pour ceux qui sont trop paresseux pour le dictionnaire, c'est la colère que
voilà.
Ça suscite en nous. Mon Dieu, c'est... non, mais des fois, faut spécifier des choses. C'est premièrement, on se demande un peu à quoi aura servi cette sortie-là, sinon que de conforter le Parti libéral dans son inaction au pouvoir. Les choses qui sont avancées sont uniquement dignes d'une ligne de pensée, qui est celle de maintenir en place ceux qui ont du pouvoir, de leur assurer ce pouvoir-là dans les moyens qui vont venir pour le Québec, dans la solution de problèmes comme le déficit démographique, les frais des coûts de santé qui vont augmenter. Mais il n'y a absolument aucune ligne de ce manuscrit où ils ont sûrement même pas dû l'écrire à la main, là. Sûrement pas eux-mêmes, ils ont dû déléguer ça à quelqu'un d'autre, mais bref, qui mentionne certains aspects qui vont eux aussi inévitablement confronter le Québec. On peut penser à la protection de nos derniers écosystèmes qui nous restent, on parle peut-être plus dans le cas du sud du Québec, mais même dans les milieux plus nordiques, des cas comme ça qui arrivent aussi, des questions de protection de la santé humaine, mais pas la santé dans les corridors des urgences, mais la santé dans nos milieux de vie, c'est-à-dire en ville, en campagne, dans nos environnements. On n'a absolument pas touché ces dossiers-là, mais pourtant le Québec est plein de ces cas-là. On peut penser aux porcheries, on peut penser à toute l'usine minière qui a créé depuis plus de 100 ans des cas problématiques de santé en Abitibi ou ailleurs au Québec. Et bon, alors on a l'impression en disant ça que c'est, on a des problèmes, essentiellement c'est une question d'argent, alors faisons payer par le peuple pour régler ces problèmes-là, mais ne touchons surtout pas à ceux qui les causent, ça serait beaucoup trop demandé à notre chère nation.
Et pourtant, on a l'impression qu'en 2005, on a compris que la santé n'était pas une affaire de soins et d'hôpitaux, mais bien d'un ensemble de facteurs déterminants de cette santé-là qui vont de facteurs biogéophysiques du monde dans lequel on vit, mais bien sûr aussi des facteurs sociaux qui font que quand on vit dans un certain contexte social, on a une plus grande chance d'être en santé et de vivre vieux.
Et on continue à... à répandre cette idée-là que la seule place où on peut trouver de l'argent pour régler ces problèmes-là, c'est dans la poche des contribuables, alors qu'on sait que ô combien l'argent est perdu du côté des méga entreprises qui, eux, ne payent absolument pas d'impôts, qui souvent quelques petites taxes municipales, aucune redevance sur l'eau, des prix dérisoires pour le bois d'œuvre qu'ils viennent nous prendre, pour les minerais qu'ils viennent chercher, et tous ces argents-là qu'on laisse aller au profit de la grande industrie, bien, ce serait amplement suffisant pour régler les problèmes auxquels on est confronté.
Amplement suffisant, j'en suis sûre. Quand on pense que SO fait 7 millions par jour ces jours-ci, je veux dire, il y a de quoi pleurer.
Juste ça.
Nicolas Mainville, pour un Québec lucide, ça a suscité des réflexions chez toi, peut-être plus justement, à savoir, pour toi, qu'est-ce que ça serait un vrai Québec lucide?
En fait, ça a soulevé plus que des réflexions. Si j'étais vraiment audacieux, je vous montrerais le gros bleu que j'ai sur la fesse en ayant tombé tellement haut de ma chaise. Je pense que c'est assez révélateur. On confronte deux générations, selon moi. C'est ça mon analyse. J'ai l'impression que ces messieurs-là ont passé leur étape, ont fait leur petit bout de chemin dans cette société. C'est malheureusement un temps qui révolue. J'ai l'impression qu'on a, nous, génération montante, quelque chose d'offrir qui est beaucoup plus constructif, beaucoup plus d'intérêt pour, justement, jeunes que nous sommes tous ici présents dans ce studio et tous ces gens qui étudient et qui veulent faire du Québec une place qui est intéressante, pas seulement au point de vue économique, mais bien sûr au point de vue environnemental. Donc moi, c'est clair qu'un Québec lucide, pour moi, c'est un Québec qui met sur la première scène la question de la santé, non pas la santé seulement de nos malades, mais bien la santé des humains, des écosystèmes. Puis je pense qu'à la base de ça, ben, c'est le respect du monde dans lequel qu'on vit en sens large. Et c'est incroyable comment que ça a passé complètement à côté du discours. Et comment on peut avoir autant d'audace de présenter quelque chose d'aussi pseudo-révolutionnaire, en fait, avec des titres du type Québec lucide, quand dans le fond, c'est justement ce qui manque dans cette analyse. C'est un manque flagrant de lucidité. Je suis flabbergasté, mesdames et messieurs.
Mais fort, mais juste.
Mais moi, aussi, une autre chose que j'aimerais, si je peux prendre, dans le fond, on a le micro ici, puis c'est, je pense que ça fait partie de notre plaisir aussi de prendre la parole pour essayer de brasser les choses. Et c'est peut-être pas lié directement avec la question d'environnement, mais c'est qu'on a présenté ces hommes-là comme étant les sages de la société québécoise.
Oui,
mais désolé, mais j'ai beaucoup de respect pour chaque effort que ces hommes-là ont mis. Peu importe qu'ils ont agi dans des milieux qui convergent avec les nôtres ou qui divergent, il reste que ces personnes-là ont donné quand même beaucoup de temps de leur vie pour des causes, et ça, on ne peut que l'admirer. Mais à mon avis, un gars qui a été premier ministre du Québec un peu par défaut, parce que Lucien Bouchard, honnêtement, il n'y avait pas grande opposition quand il est arrivé, qui a atteint le déficit zéro, pas grâce à lui, mais parce qu'il y avait une machine déjà établie derrière lui, le recteur de l'Université Laval, l'ancien PDG de SNC-Lavalin, bref, ces personnes-là, moi, dans mon livre à moi, comme on dit, des grandes personnes, c'est des personnes qui ont changé le cours des choses, et là, on pense à des personnes comme Martin Luther King, Lech Walesa, des personnes comme ça, alors qu'on ne me dise pas que ces personnes-là sont des grandes personnes, s'il vous plaît.
Délirium environnemental. On poursuit donc la revue de presse, la revue de l'actualité cette semaine. On ne peut pas passer à côté. On en a parlé beaucoup et on vous en reparlera beaucoup. C'est un dossier important. Le saviez-vous? Au Québec, il y a plus de cochons et je ne parle pas de cochons comme on aime. Je parle des porcs.
Les cochons porcs. Comme tu les aimes.
Ah, je m'excuse. Ben non. Vous pouvez mettre ça vous aussi un peu. En tout cas, bref, un autre sujet. Bref, saviez-vous qu'il y a plus que 7 millions de porcs au Québec? Donc, il y a plus de porcs que d'humains au Québec. Et le porc, ce que ça a comme particularité, en plus d'être plus intelligent que les chiens, saviez-vous qu'un porc, c'est plus intelligent qu'un chien? Malheureusement, c'est un peu moins cute dans nos yeux d'humains, donc on leur fait un peu moins attention. Eh bien, ça produit beaucoup de caca. Et le caca, c'est poison, qu'on se le dise. D'ailleurs, tellement poison que ça a suscité certaines mobilisations sociales parce que les gens qui s'empoisonnent à cœur de jour et du nez et de plein d'autres façons, par l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent, etc., se sont mobilisés pour interpeller justement les pouvoirs publics sur ces questions-là.
Et tout à fait. Et d'entrée de jeu, je vous invite à aller voir via notre site, le site de la Coalition rurale du Haut-Saint-Laurent, une gang de citoyens bien ordinaires qui se mobilisent, pas parce qu'ils veulent juste pas que ça puise chez eux. Okay? Ce n'est pas qu'une question qu'une question d'odeur, l'opposition qu'il y a à l'industrie porcine. C'est aussi une question de gros bon sens. Nos terres, on s'en sert pour épandre ce fameux caca de porc. On va l'appeler lisier jusqu'à la fin de la capsule, si tu le permets. Et ce lisier de porc-là contient beaucoup de composés organiques, phosphates, de l'azote aussi. Et ces composés-là peuvent être absorbés par la terre. Sauf qu'il y a une limite à cette capacité d'absorption-là. Et au Québec, eh bien, on se fout un peu de cette limite-là, tellement que prochainement, on parle de lever le moratoire sur la production porcine au Québec, le 15 décembre prochain, et on arrive avec des façons de calculer cette capacité-là, que ça fait plus de 15 ans qu'en Europe, on a arrêté de calculer de même parce que c'était pas assez rigoureux comme méthode. Et nous, au Québec, c'est là qu'on en est rendu. Bref, la semaine passée, des centaines de personnes qui sont mobilisées en plein centre-ville de Montréal, devant les bureaux de Jean Charest, pour manifester un minimum d'opposition. Mais je vous dis, c'est un cas, tu parlais qu'il y a plus que 7 millions de porcs au Québec, mais ça, c'est à chaque seconde. Mm-hmm. Et vous savez que une vie de porc, c'est pas mal moins long qu'une vie d'humain. Donc, au Québec, par année, il transite plus de 25 millions de porcs.
Hey, c'est du porc.
Donc, qui naissent, qui en remplacent d'autres, qui sont abattus. Bref, l'industrie,
et
en
ça,
fait...
Et ça, ça fait du
c'est,
caca.
Et c'est pas juste le long de la vingt. On le sait souvent quand on fait Montréal-Québec, on le sent. Mais c'est aussi à Chapais, dans le nord, où est-ce qu'on a des projets de faire des porcheries, ou dans une petite municipalité où est-ce qu'il n'y a même pas 10 000 habitants, on parle d'avoir 60 000 porcs. Donc, c'est un phénomène qui est réparti à la grandeur du Québec.
Et ça, bref, ça, c'est sans parler des projets de porcs méthaniers.
Non,
excusez.
Ah non, porcs.
OK.
Juste peut-être pour revenir sur les impacts, parce qu'on dit qu'il y a la capacité d'absorption par les sols, peut-être juste respécifier le danger qui guette le Québec si, justement, on ne se dote pas de mesures efficaces pour protéger des écosystèmes, entre autres hydriques, parce que ce que ça fait, le phosphore et l'azote, quand ça se retrouve dans les cours d'eau, ça provoque ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est un gros mot pour
un
dire quelque
mot.
Chose de bien simple.
De bien simple, c'est qu'il y a des algues dans l'eau. Ces algues-là ont besoin des composés de phosphate, d'azote et plein d'autres pour vivre. Plus tu leur en mets, plus ils se répandent, plus ils génèrent ce qu'on va appeler un bloom d'algues, et ça arrive pas juste dans les océans, ça arrive aussi dans les rivières, et ces algues-là ont aussi besoin d'oxygène pour vivre, pompent tout l'oxygène d'un cours d'eau, et finalement, le tuent.
C'est la fin de la vie dans les cours d'eau.
C'est ça. Et ce qui arrive, c'est que, bon, dans surtout la partie agricole du Québec, on parle du sud du fleuve Saint-Laurent, donc les rivières Yamaska, Saint-François, Richelieu sont déjà sursaturées en composés de phosphate et d'azote. Donc, on a déjà ces cours d'eau-là qui sont en très mauvaise santé, mais tout ça se mène au fleuve Saint-Laurent et au fleuve Saint-Laurent, on a des zones dans l'estuaire marin où est-ce que là, on n'a plus d'oxygène. Bref, ça se rend jusque là-bas.
Je pense qu'un excellent exemple de ça, c'est la question de la rivière Richelieu. Vous savez qu'il y a déjà une mobilisation citoyenne. D'ailleurs, la semaine passée, on entendait, ça vibrait jusque dans les murs de ma maison à Montréal. Imaginez, c'est incroyable. Les gens sont furieux. Il y a déjà des projets de construction de nouvelles porcheries dans ce coin-là. Puis il y a un comité, le COVABAR, Comité de concertation de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, qui s'est mobilisé justement pour lutter contre la mise en place d'une nouvelle porcherie. Et je pense que ça fait sortir un dossier extrêmement important qui est la question du chevalier cuivré. Vous savez que le chevalier cuivré, qui est une espèce de poisson endémique au Québec, donc qui vit seulement au Québec et qui dépend de la rivière Richelieu dans son cycle de vie et qui est directement menacé par la pollution agricole. Il a été déclaré espèce menacée en 1999 justement parce que la population a beaucoup de misère à se reproduire et sa période de reproduction en plein cœur de l'été est très vulnérable. Et puis, l'implantation d'une nouvelle porcherie va complètement à l'encontre de tout ce qui est gestion, aménagement du territoire pour le respect de cette espèce qui a maintenant le statut d'espèce menacée. Donc, c'est clair que c'est des dossiers comme ça qui refont surface maintenant qu'on lève le moratoire sur l'industrie porcine. Vous savez que ça fait plus de 3 ans, si je ne me trompe pas, que le moratoire a été mis en place par M. Boisclair. Et puis, la levée à partir du 15 décembre, on sait qu'il y a déjà au-dessus de 90 projets de porcheries industrielles qui sont en train de se négocier. C'est clair que ça fait relever ces dossiers-là à la surface. Et puis, c'est le fun de voir, excusez-moi, j'ai un certain biais d'environnementaliste, ça fait plaisir de voir la mobilisation citoyenne parce que il faut pas laisser passer ce dossier-là comme si de rien n'était. Déjà qu'il y avait eu des gros travaux dans le début des années 2000, eh bien, on est en train de refaire toute le même processus de négociation, de pression populaire. Et puis, le cas du chevalier cuivre, cuivré est extrêmement important à considérer.
Moi, peut-être rajouter un petit biais de mon domaine de recherche, c'est que le COVABAR, c'est un organisme qui est, dans le fond, reconnu par le gouvernement du Québec comme étant celui qui doit faire de la gestion concertée du bassin de la rivière Richelieu. Et on ne l'a absolument pas intégré dans ces questions-là de négociation, où est-ce qu'on doit ou non faire des porcheries. Donc, le gouvernement, ce qu'il est en train de dire à ces 33 organismes de bassin versant-là qui sont partout au Québec, c'est que, ouais, mais gars, il y a certaines décisions, dans le fond, qu'on laissera pas se rendre jusqu'à vous. On va quand même les garder à notre niveau. On peut penser aussi à Hydro-Québec qui risque d'être lui aussi gardé dans des sphères plus élevées au niveau du gouvernement. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve que c'est carrément une claque d'en face qu'on vient de donner à ces organismes de bassin versant-là qui sont supposés faire de la gestion concertée de l'environnement. On rit d'eux en pleine face.
Et c'est leur budget aussi. C'est quoi, 65 000 $ par année?
65 grosses 1000 $
pour, par conseil de bassin versant. Et on sait qu'on a investi 3 millions pour la sauvegarde du Chevalier Cuivré. Donc, c'est quand même assez contradictoire.
C'est pas stratégique.
Délirium environnemental. On poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. On vient de vous parler de cette espèce de poisson qui, au Québec, est menacée d'extinction. Et je parle, bien sûr, du chevalier cuivré dans la rivière du Richelieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, toutes les espèces marines sont en déclin. C'est un sujet, moi, qui me préoccupe
peut-être
beaucoup.
Pas toutes, là. Faut faire attention.
Plusieurs espèces marines sont en déclin partout autour de la planète. C'est ce que je voulais dire. Le partout, c'est immiscé dans ma phrase au mauvais endroit. Bref, tout ça pour dire, on sait aussi qu'il y a des zones océaniques qui sont complètement mortes. Je veux dire, sous le couvert de l'eau, tout ne va pas très, très bien. Qu'on se le dise, mes amis, puis les autres aussi, pourquoi pas. Nicolas Milo, donc, justement, on appelle, on sonne la sonnette d'alarme, j'imagine qu'il va falloir faire un peu plus que ça, pour justement rappeler l'état de dépérissement des océans.
Tout à fait. Et bon, la nouvelle qui est sortie cette semaine est assez intéressante parce que l'angle qu'on a donné à la recherche scientifique pour trouver des réponses à nos problèmes de surpêche, eh bien, est assez intéressant. Je vous rappellerai simplement l'entrée de jeu que depuis 2001, il y a le projet, on va dire c'est un gros projet, de 1 milliard de dollars réparti sur 10 ans, qui s'appelle le recensement international des espèces marines. Donc, on essaie de comprendre mieux qu'est-ce qui reste comme poisson, dans quelle quantité qu'il en reste. Bon, il y a des conclusions qui ne seront absolument pas surprenantes, comme celles qu'on pêche trop. Mais bref, les moyens qu'on atteint pour y arriver sont souvent assez intéressants. Il y a une équipe de l'Université Texas A&M qui a, dans le fond, essayé de recueillir depuis plus de 150 ans les menus des restaurants états-uniens qui offraient du poisson à leurs clients.
Ça, c'est intéressant comme façon de s'intéresser au poisson.
Mais c'est un angle qui peut être assez intéressant. Et on se rend compte que dans les années 1800, par exemple, des trucs comme le homard...
On trouvait pas ça partout.
Ben, c'est même qu'on mettait ça à la poubelle.
Ben non, mais moi, je me souviens, j'ai grandi dans le bas du fleuve.
Ah, mais le fleuve.
Ah non, mais les calmars, là, ils jetaient ça direct dans le champ pour engraisser à terre. Hein, mon père, qui est venu, il arrivait de Montréal, il était là, yeah, yeah, mes petits pompons, donnez-moi ça.
Il y a une carrière, je dis, est commandité par Eyeliner.
Voilà.
Mais bref, on est allé chercher. Puis, donc, on a des... Par exemple, dans les années 1800, les poissons ou les espèces issues de la mer qu'on servait, c'était, bon, l'ormeau. Avez-vous déjà entendu parler de l'ormeau?
Non, je connais l'ormeau, mais pas l'ormeau.
Ah, je l'attendais, celle-là. L'oreille de mer. Donc, c'était des trucs qui étaient courants en ce sens, alors qu'aujourd'hui, on assiste...
L'oreille
de mer, c'est beau, hein? Bon, l'étoile de mer, c'est facile
comme
à visualiser, mais l'oreille, en tout cas, bref.
Alors le concombre de mer,
aussi. C'est vrai, c'est très bon.
Mais c'est pas très beau, par exemple.
Non, mais encore.
Mais encore. Eh bien, ce qui arrive, c'est que, dans le fond, par ce biais-là, de l'étude des menus des restaurants, eh bien, on en est venu, dans le fond, à plusieurs conclusions qui sont assez intéressantes. Premièrement, celle qui a trait à l'évolution de ce qu'on peut proposer pour les clients. On a complètement détruit des populations de peut-être ces ormeaux-là. Bref, on n'est plus capable d'en trouver suffisamment pour alimenter un marché. Donc aujourd'hui, c'est davantage la sole, le saumon. Bon, il y a eu la morue, mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Le homard et le crabe qui ont connu une grosse poussée dans leur utilisation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à sonder ceux qui approvisionnaient ces restaurants-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début du siècle, je vous remets 1900, on est entre 1 et 2 milliards d'humains sur Terre. On pêchait environ 4 millions de tonnes de poissons au début du siècle. Et aujourd'hui, alors qu'on est à peine 3 ou 4 fois plus, on en pêche 100 millions de tonnes de poissons. Donc, voulez-vous-tu me dire qu'est-ce qu'on fait avec cette quantité phénoménal de poissons?
Nicolas, avant, on trouvait pas de poissons à l'intérieur des terres. Maintenant, avec la magie de la technologie du transport, on peut manger du poisson même en Saskatchewan, un poisson qui
tout
vient de l'Atlantique.
Tout à fait. Il y a sans doute ce cas-là qu'il y a beaucoup plus de personnes qui mangent du poisson aujourd'hui, mais il reste qu'une augmentation de cet ordre-là. Donc, c'est 25 fois plus de pêche qu'on fait. Et aussi, une dernière donnée qui dit, c'est qu'aujourd'hui, sans l'aide de la pisciculture, eh bien, il ne serait pas possible d'alimenter le marché. Et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on s'enligne vraiment vers ces technologies-là qui sont loin d'être au point, qui sont loin d'être sûres pour les autres écosystèmes qui restent à côté.
Qui ont des impacts environnementaux déjà largement prouvés et étayés, qui sont extrêmement problématiques pour les écosystèmes dans lesquels on les installe. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Très intéressant. Ça serait intéressant de voir si justement cette façon-là de s'intéresser à la quantité de poissons qui reste par la consommation qu'on en fait est vraiment représentative de ce qui reste concrètement dans les océans. Mm. Parce que si on peut tirer la ressource jusqu'à ce qu'il en reste deux, ben quand il en reste juste deux, il est trop tard pour faire quoi que ce soit.
Surtout si c'est deux poissons gars.
Surtout, mais de nos jours, vous avez la technologie, on n'arrête pas le progrès. D'un autre côté, le poumon de la Terre est menacé. L'Amazonie, les problèmes de déforestation en Amazonie sont criants, semble-t-il, vraiment beaucoup. La semaine passée, on parlait d'une sécheresse en Amazonie du jamais vu. Et puis maintenant, c'est les chiffres au niveau de la déforestation qui sont revus à la hausse.
Ben oui, c'est Science qui nous vient avec une révision des chiffres. Ça fait plusieurs années qu'on sort des données accablantes en Amazonie sur les niveaux de déforestation. C'est clair que, bon, c'est sûr qu'on est détaché hein, ici en Amérique du Nord, à Montréal. C'est pas quelque chose qui nous rejoint directement, mais l'importance de l'Amazonie de plus en plus éclairée, point de vue scientifique, en tout cas sur son rôle sur le climat, le rôle sur les précipitations même qu'on a ici et tout le tralala. Puis ben bon, les chiffres que je vous amène aujourd'hui sont un peu fatigants, puisque déjà qu'on est en train de briser tous les records de déforestation. Vous savez qu'on parle de déforestation puisque la coupe de la forêt amazonienne implique souvent le fait que la forêt ne revient pas comme telle après la coupe, contrairement à la forêt boréale qui repousse. Eh bien, c'est déjà en 94 qu'on avait brisé le record avec plus de 30 000 km² de forêt déboisée, pour donner un petit indice, c'est à peu près la taille de la Belgique. Donc, en une année qu'on avait coupé. Et puis, les trois dernières années, on a réussi à maintenir un rythme extrêmement écrasant, au-dessus de 20 000 km², ce qui battait pas le record. Mais bon, maintenant qu'on a ces chiffres-là déjà accablants, c'est Science qui nous revient en nous disant, écoutez, malheureusement, on ne considère pas toute la coupe de petite taille, la coupe sélective qui est faite partout dans la forêt amazonienne, où est-ce qu'on va aller chercher les arbres d'une importance économique comme l'acajou. Donc, le déplacement sur le territoire, le retrait de certains arbres entraîne évidemment des impacts importants sur la qualité et l'intégrité écologique de l'écosystème amazonien. Donc, ces chiffres-là qui ressortent en Science, juste pour alimenter le grand débat sur la déforestation. Donc, quelque chose à suivre, si vous voulez aller voir ça, c'est dans le Science de cette semaine.
Et bien sûr, ça sera mis sur notre site Internet à nous, qui se trouve au www.radiodelirium.net. Avant de s'arrêter, on vous fait entendre une chanson de Doba Caracol, si vous n'avez pas découvert encore ces deux femmes magnifiques qui font donc du bien et dans l'oreille et dans les yeux. Je vous invite à le faire, un groupe de Montréalaises, pas seulement de Montréalaises, il y a des Montréalais aussi là-dedans. On écoute la pièce qui est haut, comme ça s'applique au domaine de l'environnement, droit devant et au retour, on vous parle d'une arme de destruction massive. Le micro-ondes.
S'il faut parler aux foules ou faire tourner le vent, je n'ai pas de magie ni de feu de dragon, mais je n'ai plus peur de toi, je ne suis plus hors de moi. Tout ne peut pas se détruire en actionnant un levier.
un étrange bruit sourd, que la force de la vague et la lune me garde. Trop de mélancolie dans ma constellation, mais ça, je l'ai toujours eu, je ne pose plus de questions. Je suis pas un ange, je n'ai plus peur de toi. Je ne suis pas génie, je ne suis pas fée. Je n'ai plus peur de toi. Je ne suis pas génie, je ne suis pas fée. Je ne suis pas un ange, je n'ai plus peur de toi. Je ne suis pas génie, je ne suis pas fée. Je n'ai plus peur de toi. Je ne suis pas génie, je ne suis pas fée. Je ne suis pas un ange, je n'ai plus peur de toi. Hey.